J'ai le plaisir d'accueillir donc Mireille Provençal, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, qui vient donc nous parler de la sortie de son deuxième livre, Orage, une famille juive dans la montée des périls 1938-1940. Bonjour Mireille.
Oui, bonjour Odile.
Alors, on va revenir avant, bien sûr, à votre parcours, avant l'écriture de ce livre. On reviendra également sur le premier livre. Vous êtes historienne, géographe, vous avez travaillé à l'université.
Oui.
Quel a été votre parcours pour vous mener à l'écriture ?
Eh bien, a priori, c'est pas évident, puisque je suis d'abord géographe de l'environnement. J'ai beaucoup travaillé dans les Alpes du Sud, parce que... Je vais dire, c'est ma région de cœur, et c'est aussi la région dans laquelle ma famille est installée depuis extrêmement longtemps. Mais en fait, ce qui m'a amené à écrire ces livres, c'est tout simplement des archives familiales extrêmement abondantes qui m'ont été mises en main par mes parents, par ma mère en particulier, après la mort de mon père. Et puis, c'est tous les récits dont mon enfance a été entourée, baignée, sur l'histoire d'une famille, ma famille, qui est une famille juive du côté de mon père, qui a fait le choix de la résistance pendant la guerre. Et pour mes parents, qui se sont rencontrés au maquis, c'était, l'essentiel de leur vie, le plus important. Et donc j'ai baigné là-dedans et j'ai eu envie de raconter cette histoire quand, en prenant ma retraite, j'ai enfin eu le temps de m'intéresser, je vais dire, à la petite histoire, qui n'est pas si petite que ça, dans la grande histoire, pour laquelle j'avais beaucoup travaillé à l'université. Voilà, le lien.
Et c'est à partir de lettres, de correspondances, quel est votre travail de recherche ?
Mais c'est un travail, on va dire, de dépiautage, si vous me passez l'expression, qui s'est avéré beaucoup plus énorme que je ne l'aurais pensé au départ, puisque j'ai eu plusieurs cartons d'archives, dont les plus anciennes remontent au XVIIIe siècle, et les plus récentes, on va dire, aux années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la question que je me suis toujours posée, c'était ces Juifs qui deviennent citoyens français avec la Révolution. Ces Juifs, qu'est-ce que c'est qui les conduit, au fil des décennies, au fil des siècles, à finir par faire le choix de s'engager contre le nazisme dans la Résistance ? Donc ce fil-là, j'ai essayé de le tirer, on va dire, en écrivant mon premier livre que j'ai intitulé « Du ghetto », puisque les Juifs vivaient dans un ghetto, au maquis, puisque mon grand-père a fait le choix du maquis, et qu'il y est mort d'ailleurs, il y a été fusillé. Ça, c'est le premier livre qui traîne sur 150 ans à peu près l'histoire d'une famille qui s'intègre dans la République, qui fait le choix de la République et d'être français à part entière. Et puis, je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup de documentation qui concernait les trois dernières années précédant la Deuxième Guerre mondiale, celle de la montée du fascisme, du nazisme, et que je pouvais raconter quelque chose d'une famille juive française face à cette évolution politique. Ça, c'est le deuxième livre.
Les grenades. tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère.
Voilà, on revient donc avec Mireille Provençal qui est venue dans notre studio pour nous parler de son livre, deux de ses livres en fait. Vous avez commencé par écrire Du ghetto au maquis, c'est ça le premier ?
Oui, le premier c'est Du ghetto au maquis, qui, je vous le disais à l'instant, retrace une histoire sur le long cours en quelque sorte, qui est celui de l'intégration d'une famille juive dans la France républicaine. Et je pense que ceci explique bien des choses pour la suite, parce que c'est vrai que la France, elle a accueilli les Juifs en 1791, elle leur a accordé la citoyenneté, et beaucoup de Juifs français ont été reconnaissants à la France de ce qu'elle leur avait accordé. Et cette reconnaissance, elle s'est traduite par une forme de patriotisme très, très remarquable, qui font que, par exemple, pendant la guerre de 14, ce sont une très grande proportion de Juifs qui se sont engagés, qui ont accepté de mourir pour défendre un pays qu'ils considéraient comme le leur. Et je pense que ce patriotisme, ce choix de la République, a fait aussi que mon grand-père, dans les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, a fait aussi le choix de défendre cette République et de s'affirmer comme un véritable patriote, ce qui l'a mené d'ailleurs sur les chemins de la résistance et de la mort, puisqu'il a fini par être capturé, pas très loin de Digne d'ailleurs, dans la très haute Bléone, aux eaux chaudes, et c'est le lieu à la Favière, sur la commune de Prats, où il a été fusillé par les Allemands. Voilà, donc ce parcours-là, à mon avis, c'est un parcours qui a sa logique interne. Dans ma famille, on est des Juifs français, et même, je dirais plutôt, des Français juifs. Voilà, alors... Le deuxième livre que j'ai écrit, qui est disponible à la librairie La Ruelle, d'ailleurs, à Digne, et que j'ai aussi pu présenter aux archives du 04, c'est un livre qui parle de ce qui se passe dans les dernières années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, entre 1938 et 1940. Ce sont trois années qui sont terribles pour l'Europe, parce que, aussi bien du côté italien avec Mussolini que du côté allemand avec Hitler, s'enchaînent des événements qui laisse pressentir qu'on va vers la catastrophe. Et mon livre s'appuie sur ces événements clés qui sont d'une part l'annexion de l'Autriche, ce qu'on a appelé l'Anschluss, en mars 1938. Ensuite, la crise de Munich, c'est-à-dire l'annexion de la Tchécoslovaquie, son délaissement par les Alliés, en septembre 1938. Et le troisième événement, non moins dramatique, est la nuit de cristal, c'est-à-dire le premier grand pogrom juif contre les juifs en Allemagne en novembre 1938. Alors ces trois événements, moi ce qui m'intéressait c'était de savoir comment ils étaient perçus dans une famille juive. Est-ce qu'ils en mesuraient l'amplitude ? Est-ce qu'ils voyaient venir la crise ? Et donc c'est un peu là-dessus que j'ai essayé d'extraire des lettres, une réflexion politique sur les Juifs en France par rapport à la question du nazisme. Alors, ce qui rend les choses encore plus dramatiques dans mon récit, c'est que non seulement il y a ces événements extérieurs, on va dire, à la famille, mais je suis aussi issue d'une famille compliquée. C'est le père, mon grand-père, Jean, sa femme, Renée, ma grand-mère, et quatre enfants. Et chacun, si je puis dire, voit midi à sa porte. Chacun a sa façon d'interpréter, avec le sourire ou sans le sourire, ce qui se passe. Et de surcroît, la mère de famille, ma grand-mère, est une femme de son temps, c'est-à-dire c'est une femme qui ne travaille pas, il n'en est pas question, c'est une famille bourgeoise, les femmes restent à la maison. Elle est très soumise à son mari, qui exige d'elle qu'elle tienne son rang, et en même temps, elle est extrêmement malade, elle a un cancer du sein qui s'annonce dès 1938 et dont elle va mourir en 40. Un cancer au sujet duquel tout le monde lui ment, les médecins, sa famille, son mari, ses enfants. Donc c'est à la fois le destin tragique d'une femme et le destin tragique d'une famille qui ne voit pas venir exactement ce qui va lui arriver. Ma grand-mère d'abord, son nom de naissance, c'est Abraham. Elle est aussi issue d'une famille juive, comme mon grand-père qui lui s'appelait Lippmann. Ce sont tous les deux des juifs d'origine lorraine. Et je fais une petite parenthèse pour dire que ces juifs lorrains habitaient la région de la Lorraine qui a été annexée par l'Allemagne lors de la guerre de 1870. Ils ont refusé de passer sous contrôle de l'Empire allemand, et ils ont prussien à l'époque, et ils ont fait le choix de la France. Donc ma famille a quitté la Lorraine. C'est une forme d'exil qu'elle a choisie volontairement pour pouvoir rester française. Elle est venue habiter Paris dans un premier temps, et puis très rapidement Nice, où ma famille s'est installée, et mon grand-père a exercé un métier d'huissier de justice qui lui permettait de gagner extrêmement bien sa vie. Ma grand-mère habitait Lyon et bien sûr l'a rejointe à Nice lorsqu'elle s'est mariée avec lui. Mais c'était une femme issue d'une branche de la famille qui avait gardé une pratique, une foi d'ailleurs dans la judéité, qu'elle a conservée jusqu'au bout, avec une pratique des rites juifs qui provoquait la moquerie de son mari, lequel était un athée tout à fait fervent, se disait voltairien. Voilà. Donc un couple un peu dissymétrique. Dissymétrique aussi parce que comme elle ne pouvait pas travailler et qu'il fallait qu'elle tienne son rang, son mari lui avait demandé d'apprendre à danser, ce qu'elle faisait fort mal, paraît-il, d'apprendre à jouer au bridge, où elle perdait très souvent, et nombre de lettres que j'ai disent son angoisse de venir jouer au bridge et de risquer de perdre, ou au contraire son bonheur de gagner. Elle a une attitude presque enfantine parfois, qui est, je dirais, tout à fait symptomatique de la soumission d'une femme bourgeoise par rapport à son mari. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui ne se raconte pas d'histoire par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et on le voit très bien lors de la crise de septembre 38, lorsque Hitler fait monter les enjeux et où une angoisse très importante à ce moment-là se manifeste dans toute la France. Ma grand-mère est très lucide. Mon grand-père, lui, il est toujours prêt à les guerroyer. Ça lui déplaît pas à l'idée d'endosser son uniforme. Il écrit à sa femme « Mais où as-tu mis mon uniforme ? Je ne le trouve pas » lorsque la mobilisation est déclarée. Et elle sait parfaitement ce qui risque de se passer. Elle voit clair dans le jeu d'Hitler, alors que, bon, en homme de bataille, on va dire, qu'a pu être mon grand-père, il y a des choses qu'il préfère ne pas voir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 4 enfants en jeu. Bon, la petite dernière qui s'appelle Eva, est très jeune à cette époque, enfin c'est une jeune fille, elle doit avoir 16 ans ou 17 ans. Et comme ma grand-mère est amenée à aller elle-même soigner sa propre mère qui est malade, qui va mourir, mon arrière-grand-mère meurt au moment de Munich. Donc il y a cette tension politique qui se combine à une tension familiale, à ce danger de mort qui court hein, à travers les femmes de la famille. Ma grand-mère est à Lyon au moment de cette crise. Et c'est assez bien parce qu'elle écrit tous les jours à son mari et son mari lui répond tous les jours. Donc j'ai une vision d'une très grande précision quotidienne de la façon dont la crise de Munich est vécue et comment la mort qui rôde déjà dans la famille est vécue aussi. Et la petite Eva, qui est restée à Nice avec son père, puisqu'elle est au lycée, la petite Eva, ben, le principal souci de sa maman et de son papa, c'est que surtout elle ne fréquente pas trop les garçons. Voilà, il y a là aussi cet aspect-là de la vie des jeunes filles à cette époque qu'on préserve très soigneusement en les laissant jamais seules avec, en l'occurrence, le jeune professeur de français qui fait l'objet de quelques lettres qui aujourd'hui paraîtraient complètement dérisoires. Et puis il y a les 3 garçons qui sont donc le fils aîné, qui est vraiment le fils aîné puisqu'il est né en 1915, c'est déjà un quasi-adulte, et les 2 plus jeunes. Et ce qui est amusant, c'est que les enfants sont des jeunes gens, sont d'un optimisme qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils ont envie de se battre, ils sont sûrs qu'ils vont éliminer Hitler. Et cette illusion, c'est aussi un des thèmes de mon livre. C'est une famille juive qui pense qu'elle ne risque rien, à part la mort, de ma grand-mère qui meurt d'un cancer, évidemment, dont personne ne veut rien savoir. Mais il ne risque rien parce que la France est forte, la France est républicaine, et les Juifs sont des bons Français, donc ils ne risquent absolument rien. Et évidemment, la guerre va rapidement les détromper. Mais ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a un certain nombre d'écrivains qui ont souligné cette immense confiance que les Juifs français ont pu avoir dans la République. Elle leur avait donné la citoyenneté, elle les protégerait. Et comme de surcroît, ma famille, mon grand-père, ma grand-mère et tous leurs enfants étaient des gens de gauche, voire même très à gauche, ils ont pensé que le Front populaire les mettrait à l'abri des méfaits du nazisme. Donc ils ont été des fervents soutiens du Front populaire. Ensuite, il y a la guerre d'Espagne. Et ils s'engagent, ils soutiennent les républicains espagnols. Ils ne vont pas se battre, hein, mais ils les soutiennent financièrement. Ma grand-mère écrit à son mari qu'elle lit les livres sur la guerre d'Espagne et qu'elle les trouve magnifiques. Ils sont dans une espèce d'idéal européen, déjà. Et j'en parlerai dans un instant. Un idéal européen qui paraît aujourd'hui tellement irréel. Mais qui n'était pas rare à l'époque. Un auteur, M. Birnbaum, a écrit un livre qui s'appelle, à propos des Juifs, « Les fous de la République ». Oui, ils étaient fous de la République, c'est-à-dire fous d'amour, en fait. Et lorsque la guerre arrive, en 1939, mon grand-père, qui a pourtant déjà 50 ans, qui a 4 enfants, qui a une femme quasiment mourante, s'engage dans l'armée. Et il va partir en France, je ne sais pas très bien où, parce que les lettres sont écrites de cantonnement dont on n'a pas le droit de donner le lieu à cette époque. Je sais que c'est du côté de la frontière allemande, du côté des Vosges. Et il vit une vie qu'il trouve passionnante, qui est la vie de militaire qui va vaincre l'Allemagne. Et ces lettres sont d'autant plus, je dirais, presque désarmantes et tristes qu'il écrit à une femme qui est en train de mourir seule et qui va en effet laisser mourir seule. Ma grand-mère se meurt lentement. Ces dernières lettres dont je donne quelques extraits dans mon livre sont terribles parce qu'elle souffre terriblement. À l'époque, le cancer, on ne pratiquait pas d'antidouleur comme aujourd'hui. Elle souffre tellement qu'on va finir par lui administrer de la morphine qui va habiter ses dernières semaines et qui vont lui permettre d'écrire ses dernières lettres extrêmement tragiques.
Est-ce que vous voulez nous lire un extrait de votre livre, Mireille Provençal ?
Oui. Alors, une lettre du fils aîné, de Jacques. Jacques est en cantonnement, puisqu'il fait son service militaire, dans la cavalerie, du côté de Poitiers. Et il écrit à son père, le 21 juillet 1938. « Je me suis trouvé, écrit-il, dans le même compartiment qu'une blonde arienne, fort jolie, secrétaire du colonel du régiment d'aviation, Hermann Göring, qui se rendait à Saragosse. On est en pleine guerre d'Espagne, donc le Franco se bat, mais il se bat surtout avec l'aide de l'aviation allemande, dont vous savez qu'à ce moment-là, cette aviation va bombarder Guernica, par exemple. Je continue la lettre de Jacques. Au bout d'une heure de conversation, et comme personne ne comprenait l'allemand, elle m'a demandé mystérieusement si je n'étais pas allemand, et que dans ce cas, je pouvais le lui dire sans danger. J'ai travaillé ces temps-ci la terminologie militaire que je possède à fond, et j'ai eu ainsi des tuyaux très intéressants sur les effectifs italiens et allemands en Espagne. Je me suis demandé si je ne communiquerais pas officiellement mes tuyaux au colonel, ce serait amusant. Et je ne croyais pas avoir un si beau type arien, d'autant plus que je me suis montré farouchement antisémite pour lui tirer les vers du nez. J'aime beaucoup cette lettre parce qu'elle dit à la fois la conscience de l'antisémitisme du nazisme et le jeu que mon oncle, qui a tout à fait conscience d'être juif, joue pour tirer les vers du nez de cet officier fasciste, ou plutôt nazi. Mais, comme il dit, c'est amusant, je vais jouer avec. Et je crois que cet adjectif, et d'ailleurs il ne dira rien à son colonel, pour lui, tout ça est un jeu. Et c'est tragique, en fait. Voilà, donc ce sont des Juifs qui se savent juifs et qui trouvent que c'est amusant, finalement, de voyager avec une officier de l'armée nazie. Je trouve que ça en dit tout à fait long. Alors, si je continue dans la lecture de quelques lettres, Jacques est un fils très attentif à la santé de sa mère. Et il écrit « J'aimerais avoir de vos nouvelles et surtout de celles de maman. Qu'elle fasse attention, qu'elle se soigne bien. Je n'aime pas faire le grand-père, mais qu'elle prenne le plus de précautions possible. Qu'a dit la radio ? La radio, c'est pas la TSF, là. C'est la radio de ma grand-mère qui est soignée par un cousin, lequel lui ment gros comme le bras pour ne pas lui dire qu'elle est extrêmement malade et qu'elle va bientôt mourir, en fait. Alors, ma grand-mère, nous sommes toujours en 1938, septembre 38, c'est le gros de la crise. Elle écrit à son mari. « Je lis les journaux avec avidité, essayant de voir entre les lignes ce qu'on ne nous dit pas. » Elle est bien consciente du secret qui est maintenu. « La situation est plus que tendue. Je me demande où nous allons en venir. En tout cas, notre attitude ferme pour une fois fera réfléchir les autres, c'est-à-dire les nazis. Qu'est-ce qu'on en dit à Nice ? Espérons bien fort que ce ne sera qu'un mauvais cauchemar de plus. Que crois-tu ?» Voilà, c'est une lettre à son mari qui est une lettre inquiète, lequel va lui répondre très fermement que les alliés sont très solides, ils vont taper du poing sur la table et les nazis n'auront plus qu'à se taire. Voilà, Jean est quand même conscient de ce qui se passe. Et par exemple, à Nice, il est invité à dîner avec un israélite, comme il dit, puisqu'à l'époque on disait plutôt israélite que juif. Il écrit à sa femme « Déjeuner hier à Saint-Jean, c'est au-dessus de Nice. Parmi les convives, un professeur de médecine de Turin, israélite, obligé de partir, c'est abominable. » En effet, à ce moment-là, Mussolini vient de mettre en place les lois anti-juives et Jean est certainement au courant. Cette rencontre lui fait toucher du doigt ce qui se passe. Mais il est indigné, mais ça s'arrête là. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez sur ce qui est en train de se passer du côté des Juifs et des Israélites en Italie. Voilà, je pourrais vous donner quelques lignes de la dernière lettre que ma grand-mère a écrite. Elle écrit... Le 21 mai 1940, elle va mourir 5 jours après. Elle écrit à son fils, Claude, mon père, dont c'est l'anniversaire. Elle lui dit, et elle date sa lettre du 21 avril, alors qu'elle est du 21 mai, elle ne sait plus très bien où elle est. « Ça aurait été bon, bon, bon de vous avoir tous. Il fait beau, d'une manière générale, et la chaleur monte tous les jours. En attendant, je... » Le « c » devient illisible, le moins possible, et tente illisible, et vous, illisible, le sourire, je ne souffre plus, mais rien au courrier, un long baiser, bien tendre, bonne fête, heureux, 20 ans, où vas-tu être invité ? » C'est sa dernière lettre. Il lui reste quelques jours à vivre, et ses dernières pensées sont pour son fils, mais l'écriture est telle que... Sa lettre est devenue complètement illisible. Et pourtant, ma grand-mère était vraiment une femme qui aimait la vie. Combien de fois elle a écrit des lettres magnifiques, où elle est en vacances ici, dans les Alpes du Sud, où elle dit, par exemple, « Nous sommes délicieusement au frais, sous les mélèzes, en entendant le murmure de l'eau, étendue dans l'herbe. » Et voilà, je crois que ce livre, pour moi, c'était à la fois... La tragédie d'une femme, ma grand-mère, consciente, intelligente, mais soumise, souffrante et ignorée de sa famille. Et puis la tragédie européenne du nazisme qui arrive et la tragédie particulière des Juifs qui ne comprennent pas ce qui va se passer. Donc c'est ce croisement-là qui a fait que j'ai appelé mon livre « Orage ». C'est orage chez une femme, orage dans une famille et orage en Europe. Alors, je peux continuer sur la résistance parce que ça m'intéresse bien, mais...
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc, mon grand-père fait le choix de la résistance très vite. Il est fait prisonnier lors de la bataille où il est engagé, dans la campagne de France, comme son fils aîné d'ailleurs. Ils ont de la chance parce qu'ils sont tous les deux considérés comme des prisonniers de guerre. Mon grand-père est officier de surcroît, Et donc, on ne les perçoit pas, l'armée allemande ne les fait pas prisonniers comme juifs. Elle les fait prisonniers comme militaires. Ils sont tous les deux envoyés séparément, hein, dans des stalags, c'est-à-dire dans des camps de prisonniers qui sont en Poméranie, en Allemagne du Nord. Et mon grand-père va se débrouiller en faisant jouer le fait qu'il a une santé soi-disant fragile, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais qu'il a aussi une famille. Et il arrive donc à retourner à Nice, où il va retrouver son métier. Il va retrouver son métier, mais très vite, il va s'engager dans la résistance urbaine. Donc, il crée un réseau de résistance dans le cadre des réseaux combat. Son réseau s'appelle le réseau Tartane-Masséna. Et il fait du renseignement. C'est-à-dire qu'il fournit aux alliés toute information sur... les bateaux, le nombre de bataillons, qu'est-ce qui se passe à Nice. Il a, d'une certaine façon, la chance, puisqu'il s'est très bien battu pendant la guerre de 14, puis très bien battu pendant la guerre de 39-40, où il a récolté la Légion d'honneur, deux fois la Croix de guerre. Il a la chance de n'être pas impacté par les lois anti-juives qui vont arianiser, comme c'était le mot qu'on employait, la plupart des professions. Donc la plupart de ses collègues, avocats et huissiers de justice, sont interdits de profession. C'est le cas aussi d'ailleurs du meilleur ami de la famille, du très bon ami de la famille, qui est André Jacob, le père de Simone Veil. J'ouvre une parenthèse pour dire que la famille Jacob et la famille Lippmann sont très proches, partagent les mêmes plaisirs, vont passer leur week-end et une partie des vacances dans la haute vallée du Verdon, où c'est le père de Simone Jacob, donc André, qui va construire le chalet familial où nous habitons toujours aujourd'hui, et qui est le chalet donc au départ de mon grand-père. On en est à la 6e génération, c'est vous dire l'attachement à ce lieu. Voilà, donc pour revenir à mon grand-père, il s'engage dans les réseaux de résistance, le renseignement, il manifeste son patriotisme lors du 14 juillet 1940, Non, 1941, pardon, en affichant le drapeau bleu, blanc, rouge aux fenêtres de la maison, ce qui, évidemment, est extrêmement mal vu, et l'ordre lui intimait très vite d'aller plier cet étendard. Et puis, ce qui se passe, c'est que Nice est occupée par les Italiens très vite. Les Italiens ont une politique qui n'est quand même pas très répressive par rapport aux Allemands. Donc, le développement de la résistance et la vie à Nice va pouvoir se poursuivre pratiquement jusqu'en septembre 1943. Ma tante Eva, la petite Eva dont je parlais tout à l'heure, va au collège et au lycée, où elle est la très proche de la famille Jacob, des enfants Jacob, Simone, sa sœur aînée Denise, dont je donne quelques photos dans mon livre. Les deux jeunes filles sont côte à côte et très rapprochées par leur amitié, évidemment, comme toute la famille. D'ailleurs, j'ai aussi quelques photos de la famille Jacob dans la haute vallée du Verdon avec ma grand-mère et mon grand-père. Et puis, les choses, évidemment, vont se corser quand les Allemands rentrent en Nice en 1943. Juste pour rappel, en 1943, l'Italie entame des négociations séparées avec les Anglo-Américains. Et les Allemands, à ce moment-là, Mussolini est enfermé dans les Abruzzes, puis délivré. Il y a toute une histoire du fascisme qui fait que Mussolini va devoir quitter Rome et fonder la République de Salo, un nom mérité peut-être, au bord des grands lacs du nord de l'Italie. Donc ce sont les Allemands qui prennent la place des Italiens dans l'Italie du Nord et surtout pour nous à Nice. Les Allemands rentrent à Nice début septembre. Et rapidement, bien sûr, les choses tournent au pire. Mon père m'a raconté souvent comment il y a eu des rafles abominables où les Juifs qui s'étaient réfugiés, puisque les Italiens protégeaient les Juifs, il y avait un très grand nombre de familles juives françaises et européennes qui avaient choisi de venir habiter à Nice, protégées par les Italiens, et dont un certain nombre d'ailleurs de ces familles étaient expédiées dans les montagnes pour y être mieux nourries et protégées. Tout le monde connaît l'histoire de Saint-Martin-Vésubie, qui a été décrite par Le Clésio dans son livre qui s'appelle « L'étoile filante ». Mais dans la vallée du Verdon, dans la vallée de l'Ubaye, on sait qu'il y a eu beaucoup de familles juives qui ont été accueillies et protégées jusqu'à ce que les Allemands arrivent. Donc en septembre 1943, ma famille, qui est parfaitement au courant de ce qui se passe ailleurs, hein, de la chasse aux Juifs, fait le choix de prendre le train, des trains d'épines, et de monter dans la vallée du Verdon, où elle va passer quelques jours. Mais la vallée du Verdon est beaucoup trop ouverte vers le midi. Les Allemands arrivent sans problème. Donc ils franchissent la ligne de crête et ils vont fonder un maquis dans la vallée de l'Ubaye, précisément dans le petit vallon perché du Laverque. L'abbaye du Laverque, peut-être à Digne, certains connaissent à Digne et ailleurs. C'est un maquis qui est important, hein. C'est le deuxième maquis de l'Ubaye. Mon grand-père en prend la direction. Il y aura des combats importants, perdus ou plutôt souvent gagnés. Et puis, si j'ai quelques minutes encore, je voudrais parler de quelque chose d'important qui a lieu en mai 1944. En mai 1944, les partisans italiens se battent le dos à la frontière, on va dire, face aux armées allemandes qui occupent les vallées du Piémont. Et du côté français, ben, la résistance se bat aussi un peu le dos au mur face aux Allemands qui occupent tout le pays. Et c'est à ce moment-là que se produit quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est une conjonction entre les résistants italiens, qu'on appelle les partigiani, et les résistants français, qui vont aboutir à la conclusion d'un pacte qu'on appelle le pacte de Sarreto, qui est signé dans le village de Sarreto en Italie, dans le Val Maira, et au préalable qui avait donné lieu à un premier accord à Barcelonnette, hein, ce sont les accords de Barcelonnette. Et c'est un pacte tout à fait extraordinaire qui établit que désormais, ce qu'il faut faire, c'est non pas lutter chacun de son côté dans ses propres frontières nationales, mais envisager de créer une Europe unie, démocratique et sociale. C'est tout à fait prémonitoire. C'est un mouvement qui est considéré aujourd'hui comme tout à fait exceptionnel et qui va être très largement fêté le 21 mai prochain à l'initiative de la ville de Barcelonnette et de l'association des résistants de l'Ubaye, avec une rencontre de nouveau organisée entre les Italiens et les Français pour parler de cette Europe unie de Sarreto qui n'a pas vu le jour tout de suite mais qui aujourd'hui a fini par voir le jour.
Donc ça, c'est un événement qui va avoir lieu à Barcelonnette.
À Barcelonnette.
Moi, j'avais noté le lundi de Pentecôte, le 20 mai.
Oui, mais en fait, comme le 20 mai, c'est Pentecôte, la mairie a finalement décidé, pour pouvoir avoir suffisamment de personnel et assurer la gestion de cette journée-là, de la déplacer au 21 mai.
Donc ce sera le mardi 21 mai.
Ce sera le mardi 21 mai, qui va commencer dans la matinée avec la reconnaissance officielle, on va dire, des morts de la résistance, et en particulier de ceux qui ont... se sont impliqués dans les accords de Sarreto, avec des dépôts de gerbes, des levées au drapeau et toute manifestation officielle dans la matinée du mardi. Et puis l'après-midi sera consacré à quelque chose d'assez passionnant, je pense, qui est une table ronde dans laquelle interviendront à la fois des témoins, ou les descendants de témoins, parce que des témoins de 44, il n'en reste plus beaucoup, et puis et surtout des historiens. Historien de la résistance, alors côté français, c'est monsieur Guillon, qui est bien connu ici, qui est bien connu en particulier aux archives où il a beaucoup travaillé, qui viendra nous parler de la résistance française dans les Alpes du Sud et de ce qu'il en est des accords de Sarreto vus par la France. Et du côté italien, c'est une jeune universitaire, madame Tortorella, qui a travaillé spécifiquement, qui a fait sa thèse sur ces accords de Sarreto et tout ce qui précède, qui viendra donner le point de vue italien. Donc c'est une rencontre vraiment importante, symboliquement, mais surtout très intéressante sur le plan intellectuel et historique, de rappeler ce qu'ont été ces accords. Alors, ces accords de Sarreto comprennent un volet militaire et un volet politique. Le volet militaire implique l'entraide de part et d'autre de la crête, entre partisans français et partisans italiens, mais j'y reviendrai. Le volet politique est le suivant. Donc, j'en donne quelques extraits. C'est la rencontre au sommet des chefs de la résistance italienne et française. Du côté français, c'est en particulier monsieur Max Juvénal, qui est le chef de toute la résistance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et du côté italien, c'est monsieur Livio Bianco, qui est aussi le chef de la résistance dans le Piémont. Donc, je lis, à la suite des conversations cordiales dans le cadre de leur compréhension mutuelle, les deux chefs expriment la satisfaction de retrouver une base d'entente commune, ils déclarent qu'entre les peuples français et italien, il n'y a aucune raison de ressentiment et de heurts pour le récent passé politique. Ça, c'est la guerre que Mussolini a menée contre la France, bien sûr. Donc, pour le récent passé politique et militaire, qui engage leurs gouvernements respectifs, mais pas la responsabilité des peuples, qui sont tous les deux, l'italien et le français, victimes de régimes d'oppression et de corruption. Ils affirment la pleine solidarité et fraternité franco-italienne dans la lutte contre le fascisme et le nazisme et contre les forces de la réaction comme phase préliminaire de l'instauration des libertés démocratiques et de la justice sociale dans une libre communauté européenne. Voilà, je m'arrête là parce que tout est dit. La communauté européenne, on en avait jusqu'ici jamais parlé. C'est une grande première. Sur aucune des frontières de l'époque, ni entre les Italiens et les résistants yougoslaves, ni entre les Français du Nord et les résistants allemands, il y en avait quand même quelques-uns, jamais n'est affirmé ce besoin de solidarité, de lutte commune, de dépasser les régimes politiques locaux et de regarder vers une Europe nouvelle. Alors c'est excessivement important, aujourd'hui c'est vraiment fêté comme tel, comme prémonitoire. Bien sûr, ça n'a pas eu lieu immédiatement. Du côté de la résistance française, qui était quand même assez fortement nationaliste, De Gaulle a mis très vite le holà. Mais quand même, cette étincelle est restée vivante et c'est bien de ça dont on va parler. Alors, je voulais juste dire un mot sur le volet militaire, parce que c'est mon grand-père, Jean Lippmann, qui a été responsable de la conduite du volet militaire, c'est-à-dire de l'action conjointe entre résistants italiens et résistants français. Ça a été nécessaire parce que les résistants italiens étaient pressés par la poussée allemande et donc parfois ils ont trouvé refuge chez nous. Et nous-mêmes, lors de l'épisode de juin 44, quand Barcelonnette s'est libérée toute seule, la vallée de l'Ubaye s'est complètement libérée pendant une semaine. Ça n'a pas duré très longtemps. Les Allemands sont revenus en force. Ils ont été assez féroces, on peut le dire. Et donc, il a fallu qu'une partie de la résistance française passe la crête pour aller se réfugier en Italie. Et puis, il y a eu au-delà de ça, bien sûr, des échanges d'armes, des échanges de renseignements. Eh bien, mon grand-père était le responsable de cette action-là, côté français. Et s'il y a eu ces accords de Sareto, eh bien, il en est très largement, je vais dire, le maître d'œuvre, puisque les premiers contacts ont été pris par les Italiens. Et ensuite, c'est mon grand-père qui a absolument tout géré, qui a franchi l'école. C'est une épopée, hein. À l'époque, l'hiver avait été très neigeux. Il y avait encore une épaisse neige qui couvrait les sommets et l'école. Donc, les premières rencontres ont eu lieu de nuit, dans le froid glacial, au col du Sautron, qui est à presque 3000 mètres d'altitude, entre la vallée de Sareto et la vallée de l'Ubaye. Mon grand-père y a établi les premiers contacts, établi aussi les premières bases de négociation. C'est lui qui est venu chercher les dirigeants italiens pour les conduire à Barcelonnette. Bref, il avait de bonnes jambes, il y croyait, il savait ce qu'il voulait, c'était une tête politique. Et donc, il a joué un rôle déterminant dans ces accords dont je suis, je peux le dire très modestement, très fier. Bon, sa carrière s'est ensuite arrêtée là, puisque le 30 juillet, lors d'une réunion de l'ensemble de l'état-major de la résistance dans la vallée de la Haute-Bléone, ils ont été dénoncés par un traître, je ne sais pas comment il faut dire. Les Allemands sont arrivés, tout l'état-major a pu se sauver, mon grand-père aussi. Mais c'était pendant la nuit, mais dans la fin de la matinée qui a suivi cette nuit-là, il a essayé de revenir sur place dans la maison où la réunion avait eu lieu, parce qu'il pensait qu'il y traînait à la fois des listes de noms et un poste de radio qui pouvait donner trop de renseignements aux Allemands. Il y est allé et bon, c'est une erreur courageuse, mais c'est une erreur quand même. Les Allemands étaient encore là, ils l'ont capturé. Ils l'ont maltraité et ils ont fini par le fusiller, donc à la bergerie de la Favière, au-dessus de Prats. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de courage, c'est une histoire de juifs qui préfèrent se tenir debout et résister. Ils en ont les moyens intellectuels, hein, mais tous n'ont pas pu faire ça à ce moment-là. Et puis c'est aussi la grande histoire, hein, celle de la résistance et celle de l'Europe.
Et c'est important de véhiculer cette histoire, cette grande histoire, de transmettre aussi à la jeune génération.
Oui, je pense. Voilà, j'espère que à Barcelonnette, le 21 mai, nous serons nombreux, des jeunes, des vieux, des témoins ou des auditeurs, pour écouter encore une fois cette histoire méconnue, mais prémonitoire, de la création d'une Europe pacifique, comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, pacifique pour l'Europe, c'est vrai que sur ses marges, la guerre menace, mais c'est bien parce que l'Europe est unie aussi qu'on pourra peut-être résister.
Mireille Provençal, merci. On peut retrouver donc vos livres dans les bibliothèques.
Alors, mon livre, il est à la Ruelle.
À la Ruelle.
Les deux livres sont à la Ruelle. Mm-hmm. Ils sont aussi à la Carline, à Fort-Calquier.
Oui.
Ils sont à la librairie Imaginée, à Barcelonnette. Je pense qu'aux archives, pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, j'ai laissé aux archives du 04, chez M. Labadie, que tout le monde connaît, tout mon matériel, toutes mes archives, depuis le 18e siècle jusqu'à la fin de la dernière guerre. Et elles sont disponibles, à toute personne qui voudrait travailler sur ces questions. Parce que j'estime que ce qui s'est passé, ben, c'est à la disposition de ceux qui ont envie de se plonger dedans. Voilà.
Merci beaucoup Mireille Provençal. Donc on retrouve vos livres dans les librairies que vous venez de citer, à Digne-les-Bains-Cé, La Ruelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Donc le rendez-vous est donné pour Barcelonnette le mardi 21 mai, oui. Avec le programme détaillé sera certainement...
Oui, bien sûr, il sera mis à disposition. De toute façon, M. Labadie sera avec nous aussi ce jour-là, donc l'information va passer par lui. Oui, j'ajoute une petite information supplémentaire. La revue de la vallée de l'Ubaye, qui s'appelle la Sabens, la Sabens, c'est l'association, c'est la vie de la vallée en fait, hein. Publie un numéro spécial dont j'ai pris la direction avec Jean-Philippe Grillet, qui est responsable de la Sabens, qui est un gros numéro, hein, qui va faire plus de 50 pages, dans lequel on pourra trouver à la fois les textes des deux grands historiens, hein, Jean-Marie Guillon pour la France et Madame Tortorella pour l'Italie. Et puis les écrits des différents témoins ou enfants de témoins les gens qui ont quelque chose à dire sur les accords de Sareto, tels que ça a été vécu, donc les résistants de l'Ubaye, moi-même, le récit que je peux faire de l'action de mon grand-père. Donc je pense un numéro très intéressant, très important. On le tire à 500 exemplaires, mais je pense que voilà, il faut l'acheter rapidement parce qu'il va rapidement disparaître. Sorti le 21 mai, le jour 2. Je pense qu'il y en aura à la Ruelle, évidemment. Il y en aura peut-être aux archives du 04. Et puis, sinon, je ne sais pas. Ils seront en tout cas à la librairie Imaginée, évidemment à Barcelonnette. Mais sur commande, ce n'est pas très compliqué, je pense, de l'acquérir.
Le titre de la revue ?
Le titre de la revue, c'est La vie de la vallée. La vie de la vallée, c'est publié par l'association La Sabens. Et donc, le titre, ça va être... 1944, prémices de l'Europe, Sareto.
Merci beaucoup Mireille Provençal, et puis on retrouvera cette... Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter d'important ?
Non, je crois que je vous ai dit l'essentiel, mais s'il le faut, je suis joignable.
Oui, vous voulez donner vos coordonnées, une adresse mail ou...
Oui, je peux donner mon adresse e-mail, elle n'est pas très compliquée, c'est mon prénom et mon nom, donc c'est Mireille Provençal. Tout attaché.
Alors, Provençal, c'est une écriture
bien particulière. C'est une écriture à la gavotte, je dirais, parce que c'est le nom de mon mari, Provençal. Et mon mari, il est originaire de La Ragne et de Gap, où il y a encore pas mal de Provençal. Ça s'écrit P-R-O-V-A-N-S-A-L. Il ne faut pas se laisser prendre.
Voilà.
Là. Donc, Mireille Provençal, tout attaché, @free.fr. Je suis à votre disposition pour tout renseignement, et sur mes livres, et sur cette manifestation pour Sareto.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et bonne fin de journée. Cette émission sera en ligne dans la journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.